Oui, alors je m'en souviens très bien. C'était Tourangier. Il y avait eu une réunion des responsables du mouvement pour signer ce qu'ils appelaient le livre blanc qui était destiné à Fritz Traugott-Wallen, qui était conseiller fédéral. Et puis, j'avais rencontré là Roland Béguin, je l'ai vu pour la première fois et j'ai été marquée par sa présence et aussi par son regard, avec ses yeux d'un bleu magnifique. Et puis, oui, il m'avait vraiment marquée d'une façon très, très forte et je comprenais cette aura qu'il dégageait autour de lui et ce charisme aussi qui était pour moi très fort. Il s'est révélé après. Auprès des gens qu'il côtoyait, etc., et dans les foules aussi.
Dans les foules, précisément, c'est quelque chose qui n'était pas complètement naturel, hein. Chez lui, c'était quand même quelqu'un de réservé, aller vers les gens, vers les foules. C'était pas forcément spontané.
Ah non, il était très timide. Il y a plein de choses qu'il n'aurait jamais osé faire, il était extrêmement timide. Mais en fait, c'est la question jurassienne, c'est cette passion qu'il a eue pour la sauvegarde de la langue française et de la culture, qui l'a poussé à sortir de sa réserve. Mais il n'était pas fait pour les foules, Roland. C'était toujours un peu une épreuve. Bon, bien sûr qu'avec le temps, il s'y est fait, mais c'était pas facile pour lui. Et pourtant, quand on entendait ses discours, on sentait bien le contact qu'il avait avec le peuple. Mais chez lui, ça passait aussi beaucoup par la raison, quoi. Il avait toujours un but, et puis il nous amenait en fait vers ce but d'une façon assez extraordinaire.
Souvent, quand on entend parler de Roland Béguin, on le présente comme un personnage dogmatique, autoritaire. Est-ce qu'il était vraiment comme ça? Et aussi dans le travail, puisque vous avez travaillé à ses côtés en tant que secrétaire de l'imprimerie de Boëchat.
J'ai commencé, oui, à l'imprimerie Boëchat, et puis j'ai trouvé quelqu'un dont je ne m'attendais pas à de telles réactions. D'abord, tous ces ouvriers, tous les gens de l'atelier vous le diront, il n'a jamais élevé la voix, jamais il a fait une remarque en criant ou comme ça. Il était très exigeant, c'est vrai. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas, il disait. Quand il y avait une erreur qu'on constatait dans le journal qui était en train de tourner, il faisait arrêter les machines, oui. Mais pour le reste, eh bien, voilà, il était assez extraordinaire comme patron. En tout cas, il n'a jamais élevé la voix. Moi, je me souviens que le premier mois que j'étais là, j'avais fait l'erreur d'oublier un paragraphe dans une lettre qu'il fallait envoyer au Conseil fédéral, donc à la plus haute autorité du pays. Et puis, je constate ça après coup et je vais vers lui. Je dis, ben voilà, j'ai oublié de mettre ce paragraphe-là. Il m'a dit, bon, ben alors je vais vous dicter la lettre d'accompagnement et puis on invitera le Conseil fédéral à introduire ça dans la lettre qu'ils ont reçue précédemment. Alors j'étais vraiment extrêmement surprise que j'ai aucune remarque par rapport à l'erreur que j'avais faite. Donc il a toujours été comme ça. Bon, c'était pas la même chose, bien sûr, par rapport aux gens qui étaient ses égaux en politique. Là, ben, il disait les choses, même parfois assez véhémentement, mais jamais avec le personnel. Jamais il élevait la voix avec le personnel.
Justement, vous avez été hein, quelque part au cœur du réacteur de cette machine du Rassemblement jurassien. Il y avait des personnalités très fortes aussi à gérer, outre Roland Béguin, Roger Schaffter, mais aussi d'autres. Comment ça se passait, les liens entre tous ces personnages dont certains étaient quand même vraiment des tronches hein.
Ah oui, vous l'avez dit, quoi. Il y avait de très fortes personnalités. Et puis, moi, ce qui me marquait, en fait, en travaillant là, et puis en militant, c'était qu'il y avait, comme vous le dites, des gens de toute obédience, de tous les partis. Mais comme nous avions un but commun, eh bien, Roland essayait toujours de prendre les qualités de chacun pour construire justement ce qui allait devenir un État jurassien. On ne le savait encore pas à l'époque que ça finirait comme ça, mais on l'espérait. Mais voilà, moi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit de me dire, eh ben oui, cette personne-là, dans telle et telle situation, elle ne pense pas du tout comme toi, mais elle a le même but que toi dans la question jurassienne. Et là, ça me permettait de m'ouvrir aux pensées des autres, à ce que les autres ressentaient. Ça a été pour moi vraiment une école de vie. C'était une formation qui est venue avec le temps, une espèce de philosophie de compréhension des êtres en général.
Si je vous dis cette phrase, eh bien voilà, le Jura est libre, 23 juin 1974, phrase de Roland Béguin sur Les marches de l'Hôtel de Ville, vous vous souvenez de ce moment?
Ah, moi ça m'émeut que vous parliez de ça parce que on l'entend de temps en temps encore dans les reportages, à la télé, à la radio, où Roland dit tout à coup, il y a eu un calme comme ça, et puis il dit « Le Jura est libre, mais je l'entendrai, je crois, toute ma vie », cette phrase. C'est... Et encore maintenant, ça, ça me donne des battements de cœur, parce que ça signifiait que la chose était faite, oui. Même si, ben voilà, on a fêté ce jour-là, on a fêté pendant une semaine. Et moi, je me souviens que, ben, on a fêté toute la nuit. Je suis rentrée chez moi, il était 6 heures du matin, je voulais aller me coucher. Je me suis couchée à 6 heures. Une heure plus tard, à 7 heures, je me suis relevée parce que le sommeil n'arrivait vraiment pas. J'étais trop excitée, donc je me suis relevée. Et j'avais besoin d'entendre à la radio, de voir écrit dans les journaux que nous avions gagné, que le Jura était libre. Il ne faut jamais oublier que nous avions gagné sur l'ensemble du territoire.
On ne peut pas parler de Roland Béglin sans parler aussi de Roger Chaffetère, hein, les deux pères fondateurs du canton. Ils avaient des liens étroits entre eux, des liens qui sont ensuite distendus, on va dire, pour des différents de stratégies. Roland Béglin, il en parlait avec vous, de Roger Chaffetère, de ce lien qu'il avait avec lui, qu'il avait peut-être perdu.
Mais oui, je pense que le lien n'a jamais été perdu, hein, entre nous. C'était deux frères, en fait. Ils ont pas... Comme on peut y avoir des frictions sur telle et telle chose, on sait bien que c'était lié à une histoire très particulière. Mais voilà, non, ils se voyaient, ils se rencontraient de toute façon dans le cadre du conseil d'administration de l'imprimerie, qui était devenue l'imprimerie jurassienne. Et puis, en fait, non, Roger Chaffetère est venu à la maison. Il est venu aussi voir Roland à Vercorin quand il était malade. Non, c'était une fraternité qui ne s'est pas cassée comme ça. On l'a montée en épingle, mais pour eux deux, ce n'était pas ça du tout.
Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas mémoire qu'il y a eu un mot plus haut que l'autre de Roland Béglin sur Roger Chaffetère ou inversement, même s'ils avaient un différent sur la stratégie à adopter après la création du canton du Jura. Chacun a respecté finalement cette amitié.
Oui, alors, mais c'était venu d'un événement. C'est une partie des politiciens suisses qui voulaient venir ici dans le Jura pour fêter. Et puis que les Béliers avaient dit « Mais non, si Fourglaire vient, on va perturber le cortège. » Et puis Roger Chaffetère, qui était responsable de cette organisation, de cette manifestation, était fâché de ça. Et puis voilà, mais ça s'est arrêté là. C'était lié à cet événement-là, mais pas du tout à leur fraternité, à leur conception de la politique, mais pas du tout, pas du tout.